Comment parler de ce Dieu si merveilleux, si grand? Les cieux ne peuvent le contenir, la terre est son marchepied, et moi je suis devant vous pour parler de ce Dieu créateur, trois fois saint, glorieux, évidemment infiniment grand. C'est le sujet de la prédication. Dieu est infiniment grand. Un certain commentateur qui était émerveillé par le psaume 104 qu'on va lire dans quelques instants disait que il est le poème de la création, poème qui n'a pas son pareil dans toute la littérature profane. Alors sans plus tarder, j'aimerais bien qu'on lise ce texte, le psaume 104 qui va être affiché. Je vais lire les 35 versets. Ça nous fera du bien. Pour ceux qui n'ont pas eu le temps de lire la parole de Dieu ce matin, eh bien comme ça, vous lisez la parole de Dieu. Oui, mon âme bénit l'Éternel. L'Éternel, mon Dieu, tu es infiniment grand. Tu es revêtu d'éclat et de magnificence. Il s'enveloppe de lumière comme d'un manteau. Il étend les cieux comme un pavillon. Il forme avec les eaux le faîte de sa demeure. Il prend les nuées pour son char. Il s'avance sur les ailes du vent. Il fait des vents ses messagers, des flammes de feu ses serviteurs. Il a établi la terre sur ses fondements, elle ne sera jamais ébranlée. Tu l'avais couverte de l'abîme comme d'un vêtement. Les eaux s'arrêtaient sur les montagnes. Elles ont fui devant ta menace. Elles se sont précipitées à la voix de ton tonnerre. Des montagnes se sont levées, des vallées se sont abaissées au lieu que tu leur avais fixé. Tu as posé une limite que les eaux ne doivent pas franchir, afin qu'elles ne reviennent plus couvrir la terre. Il conduit les sources dans les torrents qui coulent entre les montagnes. Elles abreuvent tous les animaux des champs. Les ânes sauvages y étanchent leur soif. Les oiseaux du ciel habitent sur leurs bords et font résonner leur voix parmi les rameaux. De sa haute demeure, il arrose les montagnes. La terre est rassasiée du fruit de ses œuvres. Il fait germer l'herbe pour le bétail et les plantes pour les besoins de l'homme, afin que la terre produise de la nourriture. Le vin qui réjouit le cœur de l'homme et fait plus que l'huile resplendir son visage, et le pain qui soutient le cœur de l'homme. Les arbres de l'Éternel se rassasient, les cèdres de Liban qu'il a plantés. C'est là que les oiseaux font leur nid, la cigogne à sa demeure, dans les cyprès. Les montagnes élevées sont pour les boucs sauvages. Les rochers servent de retraite aux damans. Il a fait la lune pour marquer les temps. Le soleil sait quand il doit se coucher. Tu amènes les ténèbres et les nuits. Alors tous les animaux des forêts sont en mouvement. Les lionceaux rugissent après sa proie et demandent à Dieu leur nourriture. Le soleil se lève, ils se retirent et se couchent dans leur tanière. L'homme sort pour se rendre à son ouvrage et à son travail jusqu'au soir. Que tes œuvres sont en grand nombre, ô Éternel. Tu les as toutes faites avec sagesse. La terre est remplie de tes biens. Voici la grande et vaste mer. Là se meuvent sans nombre des animaux, petits et grands. Là se promènent les navires et ce Léviathan que tu as formé pour se jouer dans les flots. Tous ces animaux espèrent en toi pour que tu leur donnes la nourriture en son temps. Tu la leur donnes et ils la recueillent. Tu ouvres ta main et ils se rassasient de biens. Tu caches ta face, ils sont tremblants, tu leur retires le souffle, et ils expirent, et retournent dans leur poussière. Tu envoies ton souffle, ils sont créés, tu renouvelles la face de la terre. Que la gloire de l'Éternel subsiste à jamais. Que l'Éternel se réjouisse de ses œuvres. J'espère que quand il pense à nous, il se réjouit. Il regarde la terre et elle tremble, il touche les montagnes et elles sont fumantes. Je chanterai l'Éternel, on l'a chanté ça, hein. Tant que je vivrai, tant que j'existerai. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai, que mes paroles lui soient agréables, c'est un suet de mon cœur, que nos prières, nos chants lui soient agréables. Je veux me réjouir en l'Éternel. Quelle grâce de pouvoir se réjouir, non pas dans les circonstances de la vie, mais notre position en Christ, on peut se réjouir. J'appartiens à ce Père merveilleux. Et un jour, de nos yeux, nous verrons Jésus, l'auteur de notre salut éternel. Quel précieux privilège, quel réconfort pour ces jours qui sont les derniers. Je veux me réjouir en l'Éternel, et que les pécheurs disparaissent de la terre et que les méchants ne soient plus. Mon âme bénit l'Éternel. Un homme qui commence à bénir et qui continue toute sa vie à bénir l'Éternel. Dans ces quatre premiers versets, notre auteur s'exprime avec admiration. Cet écrivain brosse un tableau édifiant qui a peut-être inspiré des artistes comme Michel-Ange, peut-être, quand il a fait la chapelle Sixtine, ce Dieu créateur. Tout n'est que splendeur dans cette élogieuse présentation. Dieu est décrit revêtu d'éclat, de magnificence, s'enveloppant de lumière comme un manteau. C'est beau, c'est poétique. Cette lumière incandescente est le reflet de sa splendeur. Aucun roi, aucun puissant de cette terre possède une telle gloire. C'est une gloire éternelle. Dieu seul la possède. Et ce pieux serviteur est incontestablement un observateur avisé. On pourrait le qualifier de spécialiste dans plusieurs domaines. La nature, l'astronomie, l'étude des animaux, un petit peu comme un prof de SVT aujourd'hui, peut-être. Mais le plus important pour lui, c'est d'être qualifié d'adorateur du Dieu vivant. Il a dans son humilité, même pas voulu mettre son nom. Il est anonyme, on ne le connaît pas. Aujourd'hui, combien cherchent les titres, la gloire, la reconnaissance, l'honneur? Non, lui, son but précis, c'est glorifier ce Dieu, présenter sa seigneurie. Et d'être défini comme un adorateur du Dieu très haut. C'est aussi mon souhait pour chacun de nous. Que les gens disent de nous, ah oui, je connais cet homme, cette femme. C'est un disciple de Jésus-Christ. Un adorateur du Dieu vivant. Alors le but de cette méditation, que nous soyons premièrement identifiés comme des adorateurs du Dieu vivant, des serviteurs du Seigneur. Et puis deuxièmement, que notre vie disciple puisse exprimer de différentes facettes la grandeur infinie de Dieu, dans notre quotidien, dans nos relations. Oui, le titre de ce message est une évidence. Dieu est infiniment grand, on l'a chanté, on l'a dit en introduction. Je ne sais pas ce que vous faisiez le mardi 12 août, c'est il y a 2 semaines, aux alentours de 23h, peut-être beaucoup d'entre vous étaient au lit. Alors mon fils m'a dit, tu sais, ce soir c'est la nuit des étoiles, filante. Ah. Alors, au lieu de me coucher, je suis sorti dans mon petit jardin et puis j'ai tordu mon cou pour regarder ce qui se passe en l'air avec Angela et puis j'ai vu passer 5 étoiles. Quel fascinant spectacle. Dieu nous livre comme ça des spectacles. J'ai un rêve aussi, j'en ai plusieurs évidemment, spirituels. J'ai aussi des rêves un peu plus humains, par exemple d'aller en Suède ou en Norvège, voir de mes yeux les aurores boréales, vous savez, cette lumière incandescente verte qui... Tout cela manifeste devant ce spectacle fascinant, là. On se sent tout petit devant l'immensité de ce spectacle, devant la grandeur de Dieu. Mais ce psaume, ce poème, dépeint Dieu comme un chef d'orchestre de la création qui en prend soin dans les moindres détails. Et j'aimerais qu'on regarde ensemble 3 points. Le premier, c'est un exemple de la providence divine qui nous amène à l'adoration, alors ça concerne la nature et les éléments, la création, les étoiles, tout ça. Tout d'abord, quelque chose qui nous rassure, Dieu a posé la terre sur ses fondements solides et c'est lui qui décide qu'elle ne vacillera pas. Oui, elle tremble des fois, mais elle ne vacillera pas. Il l'a posée sur des fondements solides. Et puis de 7 à 14, on peut voir comment Dieu avec autorité dispose, décide les montagnes dans ce ciel. Avec précision, chaque chose à sa place. Et puis il assigne une position précise à cette mer, à cette eau, à ces torrents impétués. Tu iras là, pas plus loin. Tu ne pourras plus déborder de cette manière. Il rend ainsi la vie possible à toute créature. L'herbe, les plantes, les fraises. À profusion. Et il subvient dans son amour à tous nos besoins. Que ce soit pour les animaux, pour les humains. D'ailleurs, si vous constatez un peu dans la parole de Dieu, en Genèse 8, verset 22, une promesse immuable laissée par Dieu qui dit ceci, « Tant que la terre subsistera, les semailles, les moissons, le froid et la chaleur, l'été, l'hiver, le jour, la nuit ne cesseront pas. » Quoi que disent les spécialistes, Dieu décide. Il est aux commandes de toutes choses. Que ses œuvres sont merveilleuses, tout est à sa place. La lune et le soleil connaissent la course qu'ils doivent suivre selon sa volonté. Tout n'est que grâce, bénédiction. Dieu, dans sa providence, a tout prévu et il envoie ses anges pour le servir aux quatre coins de la terre, pour nous protéger quelquefois. Songez juste un petit instant tout ce que ça implique, l'administration de villes comme Tokyo, Mexique, Londres. Mais que dire? L'administration de tout l'univers et de la terre entière. Que dire? Sa puissance et son autorité et sur toute chose sont clairement soulignés. Dieu est aux commandes de cette terre merveilleuse, il pourvoit en toute chose. Et un certain savant qui s'appelle Monsieur Humboldt, je vais écrire quelques phrases qu'il nous a laissées dans ce seul psaume, disait-il, se reflète l'image du monde entier. On est étonné, dit-il, de voir décrit en quelques traits, dans une composition lyrique de si peu d'étendue, l'univers entier, le ciel, la terre. En quelques mots, il décrit les 6 jours de la création. Oui, ce psaume en suit les grandes lignes dans de splendides développements, tout en s'illuminant l'œuvre créatrice de Dieu. Une fois pour toutes, cet auteur nous montre le travail divin qui se prolonge d'une manière permanente pour l'ensemble de ses créatures. On en est les bénéficiaires. Et dans ce spectacle saisissant, on peut lire le verset 24 qui dit et qui proclame avec allégresse que tes œuvres sont grandes, éternelles. Tu les as toutes faites avec sagesse. La terre est remplie de tes biens. Premier aspect pratique de notre message, j'en ai 7 pour vous. Tout premier, si vous avez l'occasion avec vos connaissances de parler sur le sujet de la création, par exemple la nature, sa diversité, certains adorent la création, la nature, ils l'appellent la terre nourricière. Profitez de cette opportunité pour leur parler de celui qui en est le merveilleux créateur, en citant des versets bibliques. Racontez-leur comment ce Dieu 3x100, de toute autorité, est à l'origine de tout commencement. Comment, dans cette Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit, ils ont tout créé par la parole de Dieu et que rien ne subsiste sans volonté. Puis allez un peu plus loin en disant qu'un jour Jésus, ce Dieu glorieux, a quitté la gloire pour venir s'incarner, pour nous arracher du pouvoir des péchés, délivrer de la colère à venir et faire de nous ses enfants, son peuple, pour célébrer sa gloire. Voilà ce premier aspect pratique. Maintenant, voyons un deuxième exemple de la providence divine dans le monde animal. Ah, le monde animal. Moi, j'ai un ami François, vous connaissez, François Jean-Thierry. Avec lui, on ne se lasse pas de s'envoyer des anecdotes sur les animaux. Et combien, les amis, j'ai perdu contact avec la nature. Les animaux ont des trucs à nous dire, des leçons de vie. D'ailleurs, quand je regarde un reportage animalier, je suis des fois émerveillé du toucher de Dieu. Comment ils peuvent être, ça peut me sensibiliser. Alors, une petite histoire. Mon frère François me raconte quand il vivait en Italie, qu'un jour il reçoit un coup de téléphone et quelqu'un de sa famille lui dit « Écoute, viens, j'ai besoin de ton aide, il y a une grosse tortue qui est échouée sur le sable, elle est empêtrée dans un filet de pêche, il faut que tu viennes m'aider à la dépêtrer. » Alors je crois qu'ils viennent à quelques-uns et puis tout doucement ils coupent ce filet pour ne pas la blesser, ils la mettent dans le bon sens et puis elle s'éloigne comme ça. Et avant de rejoindre l'eau, elle fait quelque chose de surprenant, elle se retourne un petit instant. Puis elle regarde les sauveurs. Bon, interprétez-le comme vous voulez, mais il y a des fois des signes comme ça, étonnants, de la création divine. Moi, j'ai vécu une petite expérience ici, personnelle, n'y voyez pas des interprétations particulières, mais c'est comme ça que je l'ai vécu. Donc j'étais en Roumanie, et puis Angela me dit, malheureusement, on a dû euthanasier le chat, il était trop souffrant. Voilà, 17 ans de vie, c'était son heure. Et dans le quartier, il y avait 2 chats qui venaient nous rencontrer, mais ils ne s'approchaient pas trop de moi parce que je leur disais « Allez, allez, restez pas trop là. » Mais étonnamment, en tout cas, étonnamment, de retour en Roumanie, eh bien, ces 2 chats se sont approchés de moi d'une manière plus précise, comme pour dire « Nous sommes là. » Un chat est parti, mais nous sommes là. Voilà, petite parenthèse. Hein, mais la nature nous parle d'une manière ou d'une autre quand on y prend garde. Et quelquefois, même les animaux nous donnent des leçons de vie. Tiens, petit quiz pour vous avant de continuer notre message. Un petit oiseau, l'hirondelle de mer. Donc des scientifiques ont posé un petit capteur là, sur son corps qui pèse à peine 100 grammes. Et puis ils ont calculé combien ce petit oiseau a parcouru de kilomètres en 10 mois. Donc dites-moi, j'attends vos réponses. Non, il faut aller plus haut, il faut être un peu plus ambitieux, allez. Bon, elle a parcouru 90 000 kilomètres. Un petit engin de 100 grammes, 90 000. Il nous dit, Seigneur, ta création, moi, elle me bouleverse, elle m'interpelle. Dieu pourvoit. Tout a été élaboré. J'utilise des mots faibles, hein, comment je peux parler de Dieu, j'utilise ce que je peux, comment, mais tout a été élaboré donc par Dieu, préparé avec soin pour que les animaux évoluent dans de bonnes conditions. Il peut se nicher là, il peut aller dans les abris, etc., etc. Il est frappant de voir combien le monde, et ça c'est aussi, on le voit dans le verset, combien, verset 21, le monde, les lionceaux rugissent après leur proie, ils attendent leur nourriture. Combien les animaux recherchent, s'attendent à l'Éternel, et espèrent en lui-même. Versets 25 à 27, on voit que toutes ces espèces, qu'elles soient aquatiques ou pas, mettent leur espoir en Dieu pour leurs besoins, pour leur nourriture. Et d'ailleurs, Job nous dit, le livre de Job lui dit, quand le petit du corbeau crie, l'Éternel entend. Le Seigneur pourvoit dans les moindres détails. Et j'aime bien le verset 28 qui est plein de poésie, et c'est une image qui dit, le Seigneur ouvre sa main. Comme s'il faisait, allez, voilà, il y a tout ce qu'il faut pour vous. Il ouvre sa main. C'est une belle image de sa bonté, de sa générosité. Et combien de musiciens se sont inspirés des animaux pour composer des chefs-d'œuvre musicaux. On sait aussi que dans ce psaume, Dieu a autorité sur la mort, sur la vie. Il souffle et donne la vie par son esprit, et il la retire. Il renouvelle aussi la face de son sol. Alors, deuxième aspect pratique, très simple pour vous, pour nous. Je pense que vous le faites déjà, respecter la nature. Elle est si fragile. Respectons les animaux. Des fois, c'est barbarie, je ne comprends pas. Parce que tout appartient au Seigneur. Il nous l'a confié. On va en prendre soin avec respect. Moi, bon, j'engueulais toujours mes collègues. Maintenant que je suis à la retraite, j'engueulais. Enfin, j'engueulais. Mais pourquoi tu laisses couler l'eau pour rien comme ça? L'eau, elle est précieuse. Enfin, bref. Voilà. Respectons cette nature. Et un autre aspect encore, avec sagesse, affirmons autour de nous que toute la création, et je me suis bataillé une paire de fois avec des personnes, hein, dans des discussions comme ça, des joutes verbales, n'est pas le résultat d'une évolution lente et progressive, ni une succession d'événements aléatoires. Non, non, c'est un miracle. Selon la volonté du Dieu, c'est lui qui a opéré tout ça. Maintenant, la providence divine, parlons de cette providence divine concernant les humains. Versets 13 et 15, j'aimerais bien le relire. Voilà, de sa haute demeure, il arrose les montagnes, la terre est rassasiée du fruit de ses œuvres, il fait germer l'herbe pour les bétails, les plantes pour les besoins de l'homme, afin que la terre produise de la nourriture, le vin qui réjouit le cœur de l'homme, et fait plus que l'huile resplendir son visage, et le pain qui soutient le cœur de l'homme. Tout est dit. Ces trois éléments de base, c'est le régime méditerranéen. En créant l'homme, Dieu n'a rien laissé inachevé. Il n'a laissé aucun de ses besoins non satisfaits. D'ailleurs, quand on pense au vin et au pain, j'ai pas creusé là, mais bon, le pain, le vin, bref, quelque chose, hein, l'huile. Très spirituel tout ça. Ces bénédictions se renouvellent en abondance chaque jour. Pour qui prend le soin de les considérer? À nous d'éclairer aussi ceux qui ne voient pas cette beauté, cette nature. J'espère que vous avez fait attention à toutes ces belles fleurs que un cher frère et son épouse ont préparé pour le plaisir des yeux. Cadeau du Seigneur. Alors un petit aspect pratique, c'est le quatrième. N'attribuons pas notre confort, notre réussite, le fait de manger à sa faim, à sa soif, sur la base de nos mérites ou de nos efforts. Non, non, tout cela, c'est uniquement dû à la bonté divine. C'est lui qu'on doit remercier. D'ailleurs, on prie. Seigneur, donne-nous le pain quotidien. Alors moi, à titre personnel, je vais dire Seigneur, merci pour le vin. Tout à l'heure, je vais boire un petit peu de vin avec mon père et puis on va se réjouir. Il réjouit mon cœur. Dans le temps, il est aussi médical. Merci pour l'huile qui fait resplendir mon visage. Un peu l'huile d'onction que le Seigneur déverse sur notre tête. Merci pour l'huile. Merci pour le pain. Ah, le pain. Le pain qui me fortifie, qui me rassasie, qui me soutient. Merci Seigneur pour tous ces bienfaits. On sait ce qui se passe dans certains pays en Palestine. Combien manque de tout ça. Alors l'aspect pratique, le cinquième, puissions-nous, comme les oiseaux, verset 12, faire résonner nos voix. On l'a fait tout à l'heure. Puissions-nous, comme les oiseaux, faire résonner nos voix pour chanter et dire de tout cœur, mon âme veut bénir l'Éternel. Tellement précieux, tellement glorieux. Quelqu'un disait, la louange est un état d'esprit qui jaillit d'une connaissance profonde et intime de ce que Dieu fait, de ce qu'il est. Ça vient de là. Alors, on a pu voir ensemble, dans ces quelques minutes qui passent, on a pu apprécier, enfin j'espère, ensemble, avec quel brio le psalmiste s'est efforcé de magnifier l'infinie grandeur de Dieu. Et maintenant, des versets 31 à 35, on peut découvrir la touche finale de ce poète, ce poème. Cette strophe est entièrement consacrée à l'adoration. Notre psalmiste, juste avant, nous a laissé par écrit une succession d'événements relatant la providence divine. Et maintenant, on parle de cette touche finale. Voilà le projet du cœur, le cœur du message de cet auteur. Si merveilleux que ce soit le spectacle qu'on a pu comme ça cheminer, effleurer, il sait pertinemment que l'Éternel est infiniment élevé, que son trône est dans les cieux, au-dessus de toute œuvre. Et tout à l'heure, de sa main, il pouvait nourrir les animaux, mais il peut aussi, d'un seul toucher, faire trembler la terre. C'est une image pour parler de cette toute-puissance. Et on doit avoir de la crainte et de la révérence pour l'Éternel. J'aime beaucoup les versets 33 à 34. Il souhaite de tout son cœur que les paroles qu'il adresse au Seigneur lui soient agréables, on l'a chanté. Et je ne sais pas si vous avez fait attention en lisant les versets 33, 34. Il répète à trois reprises le pronom personnel « je ». Pas quelqu'un d'autre. Il martèle son pieux désir « je veux chanter en l'honneur de l'Éternel ». J'espère que c'est votre désir de chanter. Je veux célébrer, le célébrer toute ma vie, c'est ambitieux, hein? Mais avec l'esprit de gloire et de vérité qui habite en nous, c'est possible. Il renouvelle cette volonté, ce désir. Et je veux me réjouir en l'Éternel, j'en ai parlé tout à l'heure. C'est un homme déterminé, engagé, qui vit une intime communion avec le Seigneur. Il n'a pas besoin d'en dire plus. Tout en lui respire, inspire à glorifier Dieu. D'ailleurs, Jésus-Christ, l'exemple parfait, est venu sur terre pour glorifier notre Père Céleste, faire sa volonté. Tel est le projet de nos vies, faire la volonté du Père, à l'exemple de Jésus-Christ, qui a parfaitement accompli cela. Et une partie du verset 35 nous dit que il n'est pas dans les étoiles. Hein. Quelquefois, on croit que les chrétiens ils sont sur un nuage rose et qu'ils flottent. Pas du tout, on est lucide, on est sur terre. Nous vivons dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Mais on est bien dans ce monde. Il est lucide, il sait qu'il évolue dans un monde sans concession brutale à cause de la présence du péché. Il est méchant qu'il décrit. Et nous le savons, nous chrétiens, depuis que le péché a fait irruption dans ce monde, eh bien, le cœur de l'homme est enclin au mal. Il suffit de regarder quelques informations à la télé pour en être persuadé. Et tant que les pécheurs séviront, la méchanceté continuera de proliférer, rien de nouveau sous le soleil, malheureusement. Impactant la nature, les animaux et bien sûr les humains. Et on peut le constater chaque jour, la nature est polluée, elle est déréglée, ses richesses pillées. Sans vergogne, on fait tout ça. Les espèces animales, maltraitées, disparaissent. On leur coupe une partie d'eux-mêmes pour des plaisirs, pour faire des décorations. On a perdu la raison, totalement. Les hommes s'entretuent, cherchant à dominer, cherchant à posséder des endroits qui ne leur appartiennent même pas, sans tenir compte des populations qui souffrent et qui sont maltraitées. On a prié pour l'Ukraine. Mais ce psalmiste nous donne aussi un exemple, c'est-à-dire il exprime, il dit « J'aimerais que les méchants soient plus sur terre, c'est vrai. » Mais il l'exprime sans rancune. Il veut plutôt bénir que maudire, que haïr. Il n'a aucune rancune, même vis-à-vis de Dieu, qui laisse vivre le pécheur, le méchant, à côté de lui. Et avec sagesse, et je pense que c'est comme ça, la meilleure solution, avec sagesse, il s'en remet à Dieu, à celui à qui appartient le règne, la puissance, la gloire, sachant qu'un jour futur, il prononcera son jugement définitif, sans appel, à l'encontre des méchants et des pécheurs. Le Nouveau Testament nous le dit sans embâge. À la seconde venue de Christ, les méchants disparaîtront entièrement de la terre et vivront dans l'effroyable enfer. Et cet homme, au milieu de la génération pécheresse dans laquelle il évolue, il refuse tout compromis, toute concession avec le monde. Non, non, il veut bénir, il veut louer, il veut adorer Dieu, rien d'autre. Pas de concession. Il veut quitter le monde et sa convoitise. Notre poète me fait penser, et ça m'est venu comme ça dans ces derniers jours, ce poète me fait penser à la parabole que Jésus nous a donnée sur le trésor. Vous savez, cet homme qui, à un moment donné, trouve un trésor. Il achète, il vend tout ce qu'il a et il achète le champ pour posséder ce trésor. Lui, il y a longtemps qu'il a abandonné tous les attraits du monde. Son trésor, c'est Dieu, c'est l'éternel. La Bible nous dit, là où est ton trésor, là est ton cœur. J'aime bien aussi ce cantique qui dit, un jour dans tes parmi vaut mieux que 1000 ailleurs. Un jour auprès de Dieu, ça vaut bien mieux que tout le reste dans le monde. Les versets 31 et 35 mettent en lumière le vœu de son cœur, qui est de se consacrer entièrement à servir et à bénir son Dieu, car il est infiniment grand et glorieux. Quelqu'un m'a dit, maintenant tu ne travailles plus, alors tu peux consacrer du temps pour louer, adorer, servir Dieu. C'est le vœu de cet homme. Dieu est son tout, il veut le servir. Il veut le louer, il veut l'adorer. Son texte nous exhorte à bénir l'Éternel toute notre vie de serviteur. C'est un challenge. Certains ont plus de 50 ans de conversion et ils sont encore là, à louer, à adorer Dieu. Et quand je vois leur visage, ils rayonnent dans la joie, dans la peine, dans les combats, dans les luttes, dans la vieillesse. Cet auteur nous exhorte à le suivre sur ce chemin de vie à contre-courant du monde. Vous savez, le chemin étroit, difficile que peu trouvent, plutôt que de continuer sur l'autoroute du péché. Fuyons le monde et ses attraits. En tant que chrétiens, engageons-nous à fuir le péché, interdisons-nous toute forme de mal et travaillons à promouvoir le bien. Le monde en a besoin. En tant qu'Église, continuons à être sel et lumière au milieu des ténèbres. Alors, sixième aspect pratique de ce passage, ce paragraphe nous exhorte à un choix de vie radical. On l'a pris, hein, ce choix. Soit nous nous rallions psalmistes et donnons toute la gloire au Seigneur, soit nous nous rallions méchants et nous finirons dans les cris et les douleurs, dans la gêne, on disparaîtra de la terre, loin de la présence de Dieu. Septième aspect pratique, le dernier, en tant que disciples de Christ, ne baissons pas les bras. Ne baissons pas les bras. Puissions-nous faire notre possible pour aller à la rencontre de ceux qui risquent de périr à jamais. Annonçons-leur la bonne nouvelle du salut de Jésus-Christ. On côtoie des pécheurs tout autour de nous. Nous l'étions aussi avant. Nous faisions partie de ces méchants. Et le Seigneur, en sa grâce, nous a envoyé ses serviteurs, ses servantes, pour nous parler de Christ. Et puis un jour, il s'est révélé à notre cœur. Puissions-nous avoir à cœur d'aller à la rencontre des perdus. Alors le rappel du but principal de ce message, c'est que la méditation de ce psaume suscite en nous l'adoration. Au quotidien, puissions-nous adorer Dieu, le louer, le célébrer, le prier. Et deuxièmement, que notre vie disciple puisse témoigner avec ferveur. C'est un défi, la grandeur infinie de Dieu. Là où nous évoluons. Alors, en conclusion, quelques mots, vite fait. Persévérons ensemble à louer notre Seigneur, non seulement pour le salut de nos âmes, mais aussi le louer pour sa grandeur dans tous les aspects de la création. On peut le louer même pour l'attention qu'il porte aux animaux et à tout l'ensemble de ce qu'il a créé, des choses ordinaires que Dieu, dans sa grâce, nous donne. Combien ce monde déjà si beau, et pourtant on l'a bien entamé, hein. Alors, on l'a défiguré à bien des endroits. Malgré ce monde étant encore beau, le sera plus encore quand il sera débarrassé du péché. Un jour, la mort ne sera plus, les maladies ne seront plus. Le péché, le malin, il n'y aura plus tout ça. L'injustice aura disparu. Alors on peut se réjouir en espérance parce qu'un jour prochain, bientôt j'espère, nous n'aurons plus besoin de soleil pour nous éclairer parce que le Seigneur de gloire nous illuminera de sa présence pour l'éternité. Le méchant aura disparu. Dernière phrase. En attendant ce jour, proclamons l'amour, la providence, la grandeur infinie du Dieu créateur. Amen.